Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large, très large. Aujourd'hui, par exemple, littérature, avec un roman qui pourrait bien obtenir le Goncourt, il figure sur la liste. Et gastronomie, avec de la cuisine végétarienne. Et aussi, dans un tout autre genre, Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait des célébrités avant leur célébrité signée Lisa Marie Marquez et Marc-Antoine Lebray qui va clore l'émission et dans moins d'une minute évidemment, le journal des médias de Louise Bernard. Notre info média, il y a 20 ans ou presque, à deux jours près, deux terroristes déguisés en journalistes interviewaient en Afghanistan le commandant Massoud et déclenchaient une bombe cachée dans une caméra. Dans quelle mesure cet attentat a changé le rapport aux médias sur place et dans le monde? Réponse avec le grand reporter Salvatore Lombardo qui publie de Massoud à Massoud 20 ans après et qu'il a bien connu. Et puis nos invités, Anne Silla, chanteuse découverte dans l'émission The Voice sur TF1. La 11e saison démarre samedi avec deux grosses nouveautés, 5 jurés et surtout une édition All Stars. Ça veut dire quoi? Vous allez tout savoir. On a aussi invité le producteur Mathieu Grelier. Et puis enfin la comédienne et surtout humoriste Bérangère Krief qui peut jouer à nouveau son seul en scène. Il s'appelle Amour pendant deux mois à Paris, puis en tournée dans toute la France. Vous ne pouvez pas la rater, de novembre à mars 2022. Ça s'appelle Amour, je l'ai dit, mais il ne faut pas s'y tromper. Ça parle surtout de séparation. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et on est bien ensemble. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
La décision de CNews sur le cas Éric Zemmour, complément d'enquête gagne encore une bataille contre la désinformation. TF1 à New York samedi soir et puis on parlera aussi de la disparition d'un grand homme de télévision. Et plus joyeux du possible retour d'une série culte.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors, ils ont regardé TF1, Mensonge, cette série lancée la semaine dernière qui confirme ses bons scores, 5 610 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 26,1% de part d'audience. C'est un tout petit peu moins, mais vraiment une très légère baisse par rapport à la semaine dernière. Le succès est donc confirmé. Deuxième, M6 avec sa série 911. Le premier épisode a attiré 2 130 000 téléspectateurs, 10,4% de part d'audience. Ce sont des scores habituels. Et puis France 2, troisième avec Envoyé spécial, 1 860 000 téléspectateurs. C'est mieux que la semaine dernière, 9,3% de part d'audience. Je vous donne également les chiffres de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo hier à 16h. C'est TF1 qui remporte la bataille d'audience avec 1 870 000 téléspectateurs, 24,3% de part d'audience. Mais France 2 n'est pas très loin, 1 650 000 téléspectateurs devant France 2, 21% de part d'audience. Et on ne connaît pas encore les scores des chaînes d'information puisqu'elles sont données seulement à 11h.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec cette nouvelle, CNews qui maintient Éric Zemmour à l'antenne.
Oui, le polémiste restera dans l'émission Face à l'info toute la semaine prochaine, a indiqué la chaîne. Décision prise après l'annonce du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, qui est désormais considéré comme un acteur du débat politique nationale et non plus un simple éditorialiste. Le directeur des antennes de Canal+, Gérald Brice-Viret, a confié au journal L'Opinion être tombé des nues et va demander au CSA ce qui a motivé sa décision.
Un autre site de désinformation démonétisé par Google, c'est probablement la conséquence d'un complément d'enquête édition diffusé jeudi dernier.
Oui, ce site c'est François, régulièrement épinglé pour ses articles complotistes ou de désinformation. Il n'affiche plus de publicité acheminée par Google. Il semblerait donc que la firme américaine l'ait démonétisé, ce qui veut dire une perte de revenus conséquente, de quoi fragiliser le site. C'est Aude Favre, journaliste, co-réalisatrice d'un complément d'enquête sur le business des fake news qui vient de l'annoncer. Elle était votre invitée jeudi dernier. C'est le deuxième site à subir le même sort. Il semblerait que ce soit lié à l'enquête de l'émission de France 2. Hier, je vous racontais comment un des plus gros sites de désinformation américain, Gateway Pundit, venait de se faire démonétiser également par Google. Or, ces recettes publicitaires rapporteraient 200 000 euros par mois au site, selon une estimation de complément d'enquête.
Et François et Gateway Pundit faisaient partie d'une liste de sites confiés à Google par les journalistes de complément d'enquête, justement.
Oui, une liste pour interpeller le géant américain sur son financement indirect de la désinformation. Google ne souhaite toujours pas commenter. Aude Favre précise que François était déjà en contentieux avec Google depuis plusieurs mois. Mais il faut reconnaître quand même que le timing entre cette décision de Google et la diffusion du complément d'enquête concorde.
Et puis dans l'actualité des médias également une disparition, celle d'un grand homme de télévision, Christian Dutoit.
Une grande figure du secteur audiovisuel et un précurseur, voilà les mots du CSA pour saluer sa mémoire et son incroyable carrière. Plus de 50 ans de travail dans les médias comme journaliste, rédacteur en chef, directeur des programmes d'Antenne 2. Puis il contribue au lancement de la 5, patron de TF1 ensuite, juste après la privatisation. C'est lui aussi qui lance la chaîne d'information LCI, première chaîne info en France. Puis il est débauché par le groupe Canal+ pour lancer une autre chaîne d'information, iTélévision. Christian Détroit devient plus tard membre du CSA. Il est décédé à 80 ans du Covid.
Christian Détroit, que j'ai eu la chance de connaître, un grand bonhomme et un immense professionnel. La suite du journal des médias Louise Bernard, le JT de TF1 à New York pour commémorer le 11 septembre.
Oui, une page spéciale dans le 20h, samedi soir, 20 ans après les attentats, avec des reportages réalisés par les journalistes de la chaîne, mais pas seulement. Anne-Claire Coudray a fait le déplacement à New York, elle nous a expliqué ce choix.
Mon objectif, c'était évidemment d'être sur place pour que le message et les reportages qu'on allait présenter aux téléspectateurs aient une force encore supérieure. Quand vous êtes dans un studio à Boulogne-Billancourt, c'est compliqué de transmettre l'émotion d'un lieu comme le mémorial de Ground Zero. Et quand vous y êtes, y a plein de choses qui se passent sans avoir besoin de les expliciter. Et les téléspectateurs, ils vont tout de suite sentir effectivement l'atmosphère.
Anne-Claire Coudray y proposera une ou deux interviews. Et puis la rédaction a voulu proposer des reportages d'actualité. Un sur les vétérans, comment vivent-ils l'échec en Afghanistan? Un autre sur les secouristes aujourd'hui malades. En fait, il y a plus de morts des conséquences du 11 septembre qu'il n'y en a eu ce jour-là. Et puis il sera aussi question de la résilience des Américains, résilience à travers l'architecture, notamment des gratte-ciels toujours plus hauts et impressionnants, symbole de reconstruction. En revanche, vous ne verrez pas d'image du 11 septembre 2001. L'idée n'était pas de faire revivre cette journée.
Nous, on est un journal d'actu, donc on n'était pas là pour faire un documentaire historique sur un fait qui, normalement, 20 ans après, c'est une génération, 20 ans, aurait dû presque appartenir à l'histoire. On s'est rendu compte que c'était tout le contraire, que le 11 septembre aujourd'hui était un fait d'actualité. Parce qu'effectivement, il continue à tuer sur le sol américain avec ces cancers qui se déclenchent 20 ans après, qui n'ont pas fini de se déclencher, parce qu'il nous renvoyait à l'échec en Afghanistan avec cette question de savoir si les groupes terroristes vont y trouver un nouveau sanctuaire pour éventuellement revenir en Europe nous attaquer ou aux États-Unis. Et donc, ce 20e anniversaire n'a jamais été aussi actuel, n'a jamais rendu ces attaques aussi actuelles dans notre environnement et notre quotidien.
Et pendant cette page spéciale, vous pourrez avoir accès à des bonus, des coulisses de ces tournages à New York ou des informations supplémentaires aussi. Comment ? En flashant avec votre portable un QR code qui va apparaître sur l'écran. On a l'habitude maintenant des QR codes. Il renverra vers le site lci.fr et ce sera demain soir dans le JT de 20h sur TF1.
On reste aux États-Unis pour terminer ce journal. Question, la série 24 heures chrono va-t-elle bientôt faire son grand retour ?
Mais oui, va-t-on réentendre ceci ? Ça vous dit quelque chose?
Évidemment,
c'est ce décompte des secondes si emblématiques de la série. En tout cas, son personnage principal, Jack Bauer, pourrait bien réapparaître sur nos écrans. Les producteurs et la chaîne Fox en discutent, d'après le site américain Deadline, avec une approche nouvelle, disent-ils. Et le public en a-t-il vraiment envie? Parce qu'il y a 8 saisons, un téléfilm, sans parler de tous les retours déjà tentés, hein. Une saison supplémentaire sans succès, un spin-off aussi, 2 tentatives de spin-off annulées. Enfin bon, ça fait beaucoup d'indices qui laissent penser que le public n'attend peut-être pas ce retour. C'est décidément très tendance en revanche de faire revivre des séries cultes aux États-Unis. Il va y avoir une suite à Ally McBeal et puis la série Les Experts revient-elle à l'automne?
Et vous savez ce qui revient aussi tous les vendredis?
Non.
Le week-end. Et qui revient lundi? Louise Bernard.
À lundi
Louise, pour un nouveau journal des médias. En attendant, toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Dans un instant, notre info média du jour, on va commémorer les 20 ans de la mort du commandant Massoud, perpétré par 2 faux journalistes kamikazes à l'aide d'une caméra piégée. Quel avenir pour les médias alors que les talibans ont repris le pouvoir? On en parle avec un grand reporter qui connaît bien le sujet, Salvatore Lombardo, auteur d'un ouvrage sur Massoud et son héritier. Et il les connaît bien tous les deux, il les connaissait bien hélas pour le commandant. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Il y a 20 ans, 2 jours avant les attentats du 11 septembre, 2 faux journalistes kamikazes d'Al-Qaïda interviewaient en Afghanistan le commandant Massoud et déclenchaient une bombe cachée dans une caméra, ça a son importance. Massoud, le dernier commandant qui résistait encore aux talibans dans la région du Panjshir. Un attentat qui a changé le rapport aux médias sur place et également dans le monde. Aujourd'hui, alors que les talibans ont repris le contrôle du pays 20 ans après, le fils du commandant Massoud se prépare à reprendre ou alors à poser les armes là où son père avait laissé ce combat. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Quel avenir pour les médias en Afghanistan? Réponse avec Salvatore Lombardo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, grand reporter. Vous publiez De Massoud à Massoud, 20 ans après. C'est chez Mareuil Éditions. Livre qui raconte vos échanges avec les plus grands leaders du Front National de Résistance contre les talibans. Vous êtes l'un des seuls journalistes français à avoir échangé avec le commandant Massoud avant sa mort et dorénavant avec son fils. Tout d'abord, comment ces rencontres se sont-elles faites? Quand les avez-vous connues?
J'ai connu le commandant Massoud à l'époque de la... Excusez-moi, je suis ému parce que je pense encore à sa mort. Là. C'est vraiment terrifiant. Hier, cette folie de présenter le nouveau gouvernement taliban le jour même où on célèbre la mort du commandant Massoud. Bon, j'ai connu le commandant Massoud réellement, je l'avais connu comme simple grand reporter à l'époque des Russes, mais il recevait tellement de journalistes, il n'est pas fait attention à moi.
Petite insiste pour dire aux plus jeunes qu'avant les Américains, c'était les Russes qui s'étaient installés en Afghanistan.
Exactement. Et donc, il se battait contre les Russes. Beaucoup de journalistes occidentaux, notamment français et italiens à cette époque, moi je couvrais ça pour le quotidien italien La République. Et donc, je l'avais rencontré comme ça. Quelques années plus tard, en 2000, je publie un livre qui s'appelle Lettre à Massoud, que mon éditeur ne voulait pas sortir. Mais comme j'avais eu un succès littéraire juste avant, il a dit « Bon, je te fais cadeau de ce petit livre pour ton chéri, qui est un has-been complet, le commandant Massoud ». L'ambassadeur d'Afghanistan a vu ce livre à l'aéroport, il a ramené ce livre avec lui dans le Panjshir, et quelques jours plus tard, on m'appelle, mon éditeur m'appelle, il me dit « Il faut que tu appelles l'ambassade, Massoud veut te voir ». Je dis « Mais c'est pas possible ». J'appelle l'ambassade, et moins d'une semaine plus tard, j'étais dans le Panjshir aux côtés du commandant Massoud.
Vous êtes resté en contact avec la famille ?
Régulier durant toutes ces années. J'étais aux obsèques du commandant, c'est là que j'ai connu son fils, qui avait 12 ans à l'époque, Ahmad. Une rencontre très, très émouvante, parce qu'il fallait traverser le stade de Kaboul, un stade qui est tristement célèbre, puisque c'est là que les femmes étaient lapidées par les talibans.
Mais public.
En public.
Gradin rempli,
et il faut le préciser, c'est important. Mais ce jour-là, les gradins étaient remplis de moujahidines, 35 000 moujahidines qui venaient rendre hommage à leur chef, décédé quelques semaines auparavant. Il fallait franchir donc cette marée de moujahidines qui avait envahi aussi le terrain lui-même et remonter sur l'autre tribune et là aller saluer le fils du commandant. Avec moi, j'avais le bras droit militaire du commandant Massoud, le commandant Daoud. C'est lui d'ailleurs qui a repris Kaboul, qui a repris Mazar-i-Sharif, qui a repris Kunduz. Toutes les grandes villes afghanes n'ont pas été reprises par les Américains, mais par les moujahidines de Massoud, avec l'appui de l'aviation américaine et de l'aviation française. Donc je monte, je salue ce gamin, et puis je ne sais pas pourquoi, il me vient des larmes. Voilà, je suis pas quelqu'un... Bon, je suis assez émotif, mais de là à pleurer, bon, on en a vu d'autres.
Oui, normalement, les grands reporters, voilà. Ça a le cuir tanné.
Mais j'avais des relations tellement particulières avec le commandant Massoud, et de voir son fils avec un courage, avec un charisme, à 12 ans, je me dis, c'est pas possible. Et alors là, il me prend la main, il ne me connaissait pas, il me prend la main... Le commandant Daoud fait la traduction et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il te dit que tu n'as pas le droit de pleurer. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'il te regarde. Les 35 000 moudjahidines nous regardaient. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà l'entrée en matière de mes relations avec Ahmad Massoud.
On est ici une émission média. Pardon de revenir sur cet événement qui peut-être va vous émouvoir encore. Racontez ce qui s'est passé. Comment le commandant Massoud a-t-il été piégé par une fausse équipe de télévision?
Alors, là aussi, c'est assez terrible de rappeler ça, parce que les assassins du commandant Massoud sont deux Tunisiens du parti Ennahda qui ensuite ont pris le pouvoir en Tunisie. Vous imaginez, on a chassé Ben Ali pour mettre bien pire, à savoir les islamistes d'Ennahda, les frères d'armes de Ben Laden et d'Al-Qaïda. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Mais pour en revenir à ces deux Tunisiens, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très trouble. Encore aujourd'hui, on se pose la question, parce que Massoud ne les sentait pas. C'est quelqu'un qui marchait au feeling. Et donc, ces gens-là étaient là depuis plusieurs jours. Ils étaient passés par Kaboul. Ils trouvaient ça étrange, parce que par Kaboul, ça voulait dire que les talibans leur avaient permis d'arriver jusque-là. Ils se présentaient comme des journalistes français. De France 3. Ils avaient d'ailleurs la caméra de France 3 qu'ils avaient piqué quelque temps auparavant à un journaliste à Grenoble. Voilà, il ne sentait pas ça. Et puis, dans son entourage, il y a des gens qui ont fait pression pour qu'il reçoive ces journalistes. Et il disait non, il disait non. Et puis finalement, le jour de son départ, le ciel est très bas, l'hélico ne peut pas décoller dans l'immédiat. Et donc, on revient à la charge, je dis, mais ils sont là, ça fait quand même presque 10 jours qu'ils attendent. Essaie de les recevoir. Bon, ok. Il les reçoit, et là, au moment d'installer la caméra, ils font sauter la caméra qui était piégée. Et ironie du destin, encore une fois, ironie terrifiante du destin, c'est qu'aux côtés du commandant Massoud, deux fidèles à lui étaient présents, et notamment un collègue à nous, un grand reporter, Farim Dashti, qui vient de mourir dans la bataille pour la conquête par les talibans du Panjshir. Voilà, c'est donc il avait survécu à ses blessures aux côtés de Massoud en 2001, et là il vient de décéder 20 ans plus tard en défendant le Panjshir.
Un des caméramans, si je me souviens bien, enfin un des deux vrais faux journalistes est mort dans l'attentat, complètement broyé, restait plus que ses jambes. L'autre a pu s'enfuir. Est-ce qu'on l'a retrouvé depuis?
Théoriquement, il est mort lui aussi, puisque les gardes de Massoud, deux Hazara, l'ont poursuivi, ils l'ont criblé de balles. Voilà, ça c'est ce que me disent mes amis afghans. De notre côté, à l'époque, en Tunisie, on me disait qu'il s'était échappé et que peut-être on allait le retrouver en France ou en Belgique, parce qu'il avait des bases en Belgique aussi.
C'était le sens de ma question. Qu'est-ce que ça change dans le rapport aux médias de cette région du monde et même du monde entier? Est-ce que les journalistes sont moins libres qu'auparavant pour faire leur travail? On en parle avec Salvatore Lombardo, pardon, de Massoud à Massoud, 20 ans après. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Salvatore Lombardo, journaliste, grand reporter de Massoud à Massoud, 20 ans après. C'est le livre qu'il signe chez Mareuil Éditions. Il y a le fils en couverture et le père en filigrane. Le père assassiné il y a 20 ans, à deux jours près, par une équipe de vrais faux journalistes et une caméra piégée. Qu'est-ce que cela a changé dans le rapport avec les médias là-bas en Afghanistan?
La première chose, c'est que les gens, dès qu'ils louent une caméra, ils pensent à ça. Immanquablement, ils pensent à ça. Et je ne pense pas seulement aux forces de sécurité. C'est la population ne peut pas voir une caméra sans avoir un mouvement de recul. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est compliqué pour nos collègues de la télévision, des télévisions, qu'il s'agisse de télévision afghane comme de télévision étrangère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les médias ont pris beaucoup plus d'importance qu'auparavant en Afghanistan. Le pays, en 20 ans, quoi qu'on puisse dire, s'est énormément modernisé.
Bah déjà, il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est Internet et les réseaux sociaux.
Au moins, les Américains ont amené ça. Une qualité de communication, une facilité de communication remarquable. Moi, j'habite dans le Massif central, un petit hameau perdu, et j'ai du mal à faire passer mes communications de portable, alors qu'en Afghanistan, au fin fond du Panjshir, avec mon portable, ça passe très bien.
La 4G passe mieux dans le Panjshir que dans le Cantal.
Exactement. C'est que dans leur tout-loir.
Ouais.
Voilà. Mais pour en revenir à ça, donc les médias ont pris énormément d'importance. Les gens accordent l'importance à ce que leurs journalistes, je parle des Afghans, là, peuvent écrire ou peuvent raconter sur les radios ou sur les télévisions. Les talibans ne s'y sont pas trompés, parce que la première chose qu'ils ont fait, ou plutôt la deuxième chose qu'ils ont fait, la première chose, ça a été de fermer tous les campus universitaires, et la deuxième chose, ça a été de mettre la main sur tous les médias. Et on voit apparaître d'ailleurs des collègues à nous, présentateurs de radio, présentateurs de journaux télévisés, avec des hommes armés derrière eux. Voilà ce que ça a pu changer. Mais les journalistes résistent aussi. On a vu hier encore les images de ces deux journalistes afghans bastonnés, mais de manière assez terrible, assez terrifiante, parce qu'on voit les effets sur leur corps et puis sur leur esprit, on imagine, par des talibans.
Et qui ont eu le courage de se montrer à visage découvert tout en montrant leurs blessures, ce qui est presque aussi pour eux une prise de risque.
C'est pas presque, c'est carrément une prise de risque, parce que je pense que ça va pas rester impuni, ça aussi. Hein. C'est des gens qui sont extrêmement rancuniers pour les avoir côtoyés. Je sais qu'il ne faut absolument pas se fier aux mensonges éhontés des talibans.
Les médias font irruption dans ce conflit, comme partout. Vous racontez dans votre livre que le Front National de Résistance, c'est-à-dire les hommes de Massoud contre les talibans, avaient envoyé un ambassadeur officieux à Paris, dont le rôle était de faire du lobbying, notamment auprès des journalistes. Ça fonctionnait comment ?
Écoutez, il essayait de contacter le maximum de journalistes en parlant. La première chose dont il parlait, c'était de Massoud, parce que ça fascinait les gens. Moi, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Il m'a dit, je suis l'envoyé spécial du commandant Massoud, ça vous intéresse qu'on en parle? Mais évidemment que ça m'intéresse. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'était quelqu'un de c'est toujours quelqu'un, il est au Canada maintenant en poste, mais c'était quelqu'un de très habile, très intelligent, très diplomate, et en même temps très au fait des demandes des différents journalistes. Il a organisé beaucoup de rencontres avec des collègues journalistes français ou européens avec le commandant Massoud dans le Panthéon.
Alors, ce qui est vraiment frappant à la lecture de votre livre, c'est que vous nous remémorez ou vous nous apprenez qu'à l'époque, avant la mort de Massoud, il n'était pas très très bien vu. La position des médias français peu interrogée, notamment celle du journal Le Monde, vous écrivez, c'est page 34, la correspondante ne va cesser de dénigrer l'Alliance du Nord et son chef Massoud, tout en ménageant sans remords l'État taliban et ses patrons. Vraiment ?
Oui, vraiment. C'était, ça faisait mal à Massoud. Ça faisait mal à Massoud. Non pas qu'elle le critique, non pas qu'elle prenne des prises de position qui étaient, d'après lui, absolument pas conformes à la culture française, culture qu'il avait fait sienne, n'oublions pas. Il a été élevé au lycée français Esteghlal de Kaboul. Il parlait un français assez correct, avec un très fort accent, mais on s'exprimait en français. Il aimait la littérature française, il aimait les journalistes français, il adorait dialoguer avec eux.
Mais moi, ce qui m'intéresse en émission média, comment se fait-il que Le Monde, la correspondante du Monde dont vous donnez le nom, Françoise Chipot, prenne position contre Massoud, pour les talibans?
Écoutez, je me suis posé la question, je lui ai posé la question d'ailleurs. Sa réponse est simple, tu es trop engagé aux côtés du commandant Massoud pour avoir suffisamment de recul. Moi, j'ai suffisamment de recul. Je lui ai dit, oui, tu as du recul depuis le Pakistan, mais tu n'as pas du recul depuis Paris pour considérer le Panthéon comme la citadelle d'un combat métaphysique pour nos libertés, pas seulement celle de l'Afghanistan, mais nos libertés à nous.
Elle nous écoute peut-être, elle travaille toujours pour le journal Le Monde?
À ma connaissance, non. Elle a quitté ce journal maintenant. Je la salue si elle nous écoute, puisqu'elle m'avait dédié quelques jours après une rencontre mémorable à Kaboul un très bel article. Il faut dire que les Moudjahidines l'avaient reconnue, ils avaient appris qui elle était et ils voulaient carrément la défenestrer du bureau de Abdullah Abdullah, le ministre des Affaires étrangères de Massoud.
Les réseaux sociaux, comment ça va se passer maintenant? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe en ce moment à Kaboul? Et après, je demanderai des nouvelles du fils Massoud.
Alors, pour l'instant, les réseaux sociaux fonctionnent encore. Ils ne sont pas parvenus, les talibans n'ont peut-être pas encore pris conscience de la nécessité pour eux d'essayer de couper au maximum les communications via les réseaux sociaux.
Et les médias, on a vu cette image terrifiante de cette présentatrice remplacée le lendemain en lieu et place de son studio par un barbu avec un turban.
La mainmise sur les médias audiovisuels est totale. Voilà. Il n'y a plus aucune possibilité de liberté. Les talibans se sont empressés de mettre la main sur les principaux médias audiovisuels. La presse écrite, de toute façon, elle est interdite. Donc, voilà, il n'y a pas d'alternative possible. Aujourd'hui, c'est silence, on tue.
Quelle nouvelle du fils du commandant Massoud avez-vous? Il annonçait il y a quelques jours qu'il serait prêt à faire la paix avec les talibans pour parvenir à une paix durable dans le Panthéon. Et l'Andarab, c'est un renoncement total?
C'est pas du tout un renoncement total. Son père avait déjà engagé un dialogue qu'il espérait constructif en 1999 et en 2000 avec les talibans, qui avait refusé de manière hautaine en disant « on va vous écraser, donc c'est pas la peine, Dieu est avec nous et vous êtes un impie à Massoud ».
La dernière fois que vous l'avez au téléphone, je vais vite parce qu'il nous reste plus que quelques secondes, il vous disait quoi ?
Il y a 3 jours et il me disait qu'il venait de quitter à nouveau le Tadjikistan, parce qu'à un moment il s'est réfugié au Tadjikistan pour pouvoir négocier justement avec des représentants des diplomaties occidentales, voilà, parce qu'il y a des discussions qui se poursuivent, je ne peux pas en dire plus, mais on imagine, et il voulait aussi réorganiser son approvisionnement en munitions, en carburant. Là, il est rentré en Afghanistan et il a échangé son vêtement traditionnel pour le vêtement de combat. Il est en première ligne avec ses commandants pour organiser la défense, comme le faisait son père à l'époque, depuis les vertigineux défilés du Panthéon.
Merci beaucoup Salvatore Lombardo, témoignage précieux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Massoud à Massoud, 20 ans après, aux éditions Mareuil, disponible en librairie. Et pour info, Society, le magazine, 11 septembre 2001, numéro spécial, le jour qui a changé le monde. Et justement, il y a aussi un sujet Massoud de père en fils. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.
Merci.
Dans un instant, à parler The Voice All Star, tout à fait autre chose. Nous sommes avec la chanteuse Anne Silla et Mathieu Grelier, c'est le producteur de l'émission. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Anne Silla.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, déjà deux albums. Vous êtes autant dans la pop que dans le jazz. Vous êtes aussi violoncelliste. Vous étiez fait connaître en 2015 dans l'émission The Voice, saison 4. Vous avez failli remporter. Vous avez simplement perdu en finale. C'est le grand regret de votre coach Florent Pagny. À l'époque, vous aviez la boule à zéro. Maintenant, on peut vous voir sur Europe1.fr. Vous avez des boucles, de longues boucles. Vous n'avez pas de longues boucles. Bonjour Mathieu Grelier.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes directeur des programmes de la société de production ITV Studio France. En gros, vous êtes le producteur de The Voice. Merci d'être avec nous. Votre actu à tous les deux, elle vous réunit. C'est The Voice All Star. La saison démarre demain à 21h sur TF1. Ce n'est pas une saison comme les autres, c'est justement pour ça que vous êtes là, Anne Silla. C'est une saison All-Star. Mathieu Grelier, pour qui ne connaîtrait pas, ça veut dire quoi All-Star ?
Alors, ce sont les 10 ans de l'émission. The Voice fête ses 10 ans cette année, donc on a réfléchi à fêter cela en grande pompe et on est venu avec cette idée de faire une saison inédite, un peu différente, un pas de côté comme on dit, mais assez exceptionnel puisque tous les talents que vous allez voir à partir de demain sur TF1 sont des talents qui ont déjà participé à des saisons précédentes, des talents emblématiques. On a choisi la crème de la crème, des très grandes voix, et je parle pour ma camarade qui est en face de moi et pour tous ceux qui sont dans l'émission, les talents emblématiques, des demi-finalistes, des finalistes, et ils ont accepté de venir un petit
tous
peu se... Tous, c'est ça qui est incroyable. On en a appelé 50, on aurait aimé en appeler 100, merci, on avait 50 places. On en a appelé 50, je vous le dis, mais très sincèrement, on n'a eu aucun refus. Et pourtant, ils vont repasser l'audition à l'aveugle. Ils vont se remettre en jeu avec le risque pour certains de ne pas avoir de coach qui se retourne alors que les fois passées, ça s'était bien passé.
50 pour combien de places? Les 50 seront dans l'émission?
Non, il y a 30 places.
D'accord. 50, voilà. Donc il y a 20 déçus.
Exactement. Ah. Voilà. Mais ils ont accepté de venir refouler les pieds de cette scène qui leur a porté plutôt globalement chance et puis de retrouver la famille, comme on dit.
Alors, j'ai volontairement pas tout vu. Est-ce que dans l'émission, ce qui a fait découvrir Louane, Amir, Slimane, Kenji Girac, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là, est-ce que ceux-ci, vous ne les avez pas appelés?
Alors, on n'a pas appelé les gagnants, parce que peut-être qu'en plus, ils auraient été vraiment trop faciles à reconnaître pour les coachs, mais ils seront là, d'une autre façon, toute la famille est réunie. Sur l'étape d'après, on commence par les fameuses auditions à l'aveugle, là, c'est dès demain. Ensuite, il y aura une autre étape qui est dingue, qui s'appelle les cross battles. Et là, tous ceux que vous avez cités vont venir sur les répétitions, voir leurs anciens camarades, les encourager, leur donner du love, comme on dit. Voilà, donc tout le monde sera là, y compris tous ceux que vous venez de citer.
Alors, j'allais poser une question à Anne Silla, mais vous avez répondu à ma place. J'ai demandé, est-ce que vous avez dit non? Vous ne l'avez pas dit. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite à la proposition ou est-ce que vous avez eu peur?
J'ai eu très très peur. Je me souviens quand on m'a appelé. En fait, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit ça doit être génial à regarder, mais alors vraiment y être, ça doit être beaucoup plus difficile. Et puis finalement, bon, l'amour de l'adrénaline et puis de l'émission et de tous ces gens.
Ah, vous avez dit le mot en premier, enfin en deuxième, adrénaline. Oui, vous avez eu peur que les fauteuils ne se retournent pas?
Je me suis surtout dit, est-ce que c'est une bonne idée de retourner se mettre en danger comme ça? Est-ce que c'est judicieux? Et d'un autre côté, je crois qu'on sort de moments très difficiles, tout le monde. Et je pense que c'est le meilleur moment pour vivre des choses intenses et d'en profiter. Et voilà, si on se loupe, on se loupe.
Ça m'a fait penser au moment du bac, il y a ce marronnier. On demande à des philosophes de faire le devoir de philosophie du bac. Il y en a qui se prennent 3. Et je me suis dit, si personne ne se retourne ou si personne ne reconnaît votre voix, c'est un peu humiliant. Mais alors, je vais rassurer tout de suite, pas du tout. On va entendre votre passage, Anne Silla, devant le jury 2021. Ils ont le dos tourné. Vous aviez peur d'être oublié ou alors qu'ils ne reconnaissent pas votre voix? La preuve que non.
Ce soir, je vais interpréter « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Parce que je reviens chercher le public, je reviens chercher Florent Pagny. Ça correspond un petit peu à ce que je m'imagine de cette nouvelle aventure.
Je reviens te chercher.
Anne Silla.
Je savais que tu m'attendais.
C'est Anne Silla, je crois.
Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
Oh, c'est sur CLC.
Je reviens te chercher.
Tu rigoles ou quoi?
Ben oui. Tu vois, j'ai pas trop changé.
Un petit peu.
Un petit trait d'humour. J'ai compté en 6 syllabes, il vous a reconnu Florent Pagny.
Oui, c'est vrai que là, franchement, même moi, j'ai eu du mal à y croire. Et c'est vrai que je l'ai entendu quand j'ai commencé à chanter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dit une phrase, quoi.
Ouais.
Mais bon, c'est très touchant. Je suis très, très touchée.
Alors, je vais pas raconter quel coach vous avez choisi. Je précise, tiens, que ce titre de Beko sera sur votre nouvel album qui va sortir le 29 octobre. Entre-temps, vous avez parcouru beaucoup de chemin.
Oui, bah j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait des projets assez variés, j'ai eu la chance de faire deux albums, de participer à des projets aussi sur des séries télé, de faire...
La chanson du Roi Lion,
la chanson
Disney.
Du Roi Lion, oui,
vous êtes la voix
dire.
De Nala, si j'ai bien... parce que j'ai pas vu le film, je vais pas mentir, mais il paraît que c'est vous, et surtout vous avez aussi, enfin surtout, vous avez également un trio de jazz, qui est dans un tout autre genre.
Bah j'ai plein de on va dire, d'amour différents pour différents styles de musique, et j'essaye de les maintenir en vie malgré tout ce qui se passe pour moi dans le registre pop. Et c'est vraiment le but de mon prochain album, c'est de mélanger tout ça.
Question pour Mathieu Grelier. Haute première, non pas quatre, mais cinq coachs emblématiques. Florent Pagny, Jennifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Avant qu'on parle de Fiori, pourquoi cinq?
Alors, c'est une première mondiale cette émission. C'est une idée française. On est le premier pays à le faire. On s'est dit, allez, on veut que la fête soit complète. On va voir les choses en plus grand. On va faire l'événement. Et aussi parce qu'on voulait que les deux familles The Voice et The Voice Kids, parce qu'il y aura aussi... parmi les talents sur scène, des anciens kids qui ont grandi.
Ils sont géniaux.
Non, mais c'est surtout qu'ils ont mué. C'est que
ils ont
mué.
Ils sont absolument dingues. Et donc Patrick Fiori, c'est le coach emblématique de The Voice Kids. Il a fait 7 saisons, il a gagné 3 fois. Donc on l'a invité à venir rejoindre ses 4 copains. C'est la première fois pour lui un peu chez les grands, comme il dit. Et c'est ça qui est fort dans l'émission, c'est qu'il y a ce plaisir de ces retrouvailles entre coach et talent. Et puis, ce que vous avez entendu l'extrait, il y a un petit côté qui est qui. On essaye de jouer à savoir, mais est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle?
Et il y a aussi des co-coachs. Je ne savais même pas que c'était possible des co-coachs. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans quelques instants avec Anne Silla et Mathieu Grelier. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de The Voice All Stars, ça veut dire rien que des stars. C'est un peu comme dans Koh-Lanta, il n'y a que des gens dans le nouveau Koh-Lanta, c'est un Koh-Lanta All
Stars. C'est l'année des anniversaires. Voilà.
C'est l'année des
grandes émissions, des grandes et belles émissions.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mathieu Grelier, c'est le producteur de l'émission. L'émission démarre demain samedi avec Anne Silla qui avait participé à l'édition 4 et qui participe à cette édition anniversaire. Alors je dois dire, mise en scène très efficace parce qu'on voit les candidats avant, après, la première fois qu'ils viennent et puis là désormais en 2021, mais aussi il y a 10 ans par exemple, Flo Mallet, alors ce nom dit peut-être rien à ceux qui nous écoutent, mais sa famille le connaît quand même, il avait été, pourquoi je le cite, parce qu'il a été le premier candidat de la première saison. Il n'avait pas gagné, mais de son propre aveu, sa vie a changé.
Avant de faire The Voice, j'avais plein de petits boulots à droite à gauche. Et The Voice, oui, ça a clairement changé ma vie. J'ai passé 4 ans aux Folies Bergères à Paris et en tournée en France pour un spectacle musical qui s'appelait Salut les copains. J'ai fait des chœurs pour des artistes aussi, Aya Nakamura pour pas la citer. C'est pas donné à tout le monde, donc vraiment je remercie cette émission et les coachs de s'être retournés à l'époque.
Voilà, ça c'était Flo Mallet. Anne Silla, vous dites mieux encore, vous dites que The Voice vous a sauvé la vie, c'est-à-dire...
Bon, alors il n'y a pas que l'émission évidemment, mais ça fait partie d'un processus, on va dire, de reconstruction pour moi. Je sortais d'un moment un peu difficile dans ma vie. Et en fait, on parlait de ça tout à l'heure, l'adrénaline que ça génère, le stress, le défi, le fait d'apprendre des chansons très vite, d'apprendre des mises en scène, ça me maintenait dans une certaine forme de... comment dire, de stress bénéfique, quoi. Et je pensais à rien d'autre que ça. Et
c'est pour cette raison, je n'en parlerai pas si ce n'est pas télévisé, mais ça avait frappé, c'était pour cette raison que vous aviez la boule à zéro, le crâne complètement rasé.
C'est aussi pour cette raison. Bon, j'ai un peu craqué. J'étais chez le coiffeur avec une copine, et puis le coiffeur m'a fait une coupe, et puis j'ai dit, oh, bah, pourquoi pas les raser, en fait. Donc voilà, c'était un petit craquage.
Alors, une émission de télé, vous n'avez pas peur que la production dise c'est quoi cette histoire?
Alors, franchement, je reconnais que, je suis désolée, Mathieu, hein, mais je n'y avais pas pensé du tout, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je me disais, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas très... Enfin, c'est que
personne
le début.
Connaît, ouais.
Sauf que c'est vrai qu'avec les castings
t'as
avant,
créé
c'était...
une image sans le savoir.
Oui, oui, c'est créé une image sans le savoir.
Ah oui, c'est celle qui a la boule à zéro dans le film de Florent Pagny et qui a une voix de dingue.
Mais c'est drôle parce que oui, je me rendais pas compte à quel point c'était important, quoi. Et
t'as pas perdu la voix même avec les bouclettes qui sont revenues.
Voilà.
Vous allez voir comme elle chante magnifiquement bien dans l'émission.
Et ce qui est très frappant, je vais le dire également d'autres, ils ont fait des progrès assez conséquents.
Absolument.
Ils chantaient déjà bien et ils chantent encore mieux.
Ah, c'est la Ligue des Champions. Moi, j'appelle ça les Olympiades de la voix. Ouais. Ils ont tous leur expérience. Ils ont fait un chemin d'artiste, tous les uns les autres, sur des scènes, en faisant des disques, des spectacles musicaux. Donc, ils maîtrisent encore mieux leur technique. Et honnêtement, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ce programme que j'adore.
Ouais.
Je pense que c'est demain soir le plus gros épisode que j'ai vu en 10 ans. C'est une, pardon de cette expression affreuse, une tuerie vocale, prestation après prestation. C'est grâce à tous ses talents, mais vraiment, vous allez en prendre plein les oreilles demain soir.
Mais je crois que la chance qu'on a aussi dans l'émission, c'est que, et c'est pour ça que tout le monde vous remercie aussi, tous les talents vous remercient, c'est que en fait, c'est plus, enfin, pour moi, c'est plus vraiment un concours de chant là, à ce niveau-là. C'est vraiment des artistes, et puis les gens ont le droit de, ben, c'est les goûts et les couleurs, de choisir tel artiste pour ce qu'il représente et ce qui les touche. Mais en réalité, je crois que là, à ce stade, tout le monde chante bien, quoi. Enfin, il y a plus de.
On est bien d'accord.
Mathieu Grelier, quel sera le dispositif? Les demi-finales, la finale seront en direct? Comment ça s'est passé?
Absolument. Là, on a les auditions à l'aveugle, donc ils commencent dès demain soir.
Ça a été tourné.
Ça a été tourné.
C'est sans public.
C'est sans public, quoi.
À cause du coup, à cause
absolument,
de la Covid, ça a été tourné quand?
Ça a été tourné au début de l'année, il y a un peu plus de 6 mois. Mm-hmm. Donc ensuite, il y a une deuxième phase qui est dingue, qui s'appelle les cross battles. Bon, ce sont matchs vocaux entre nos champions. Là, vous allez voir ça. C'est Anne pourra peut-être vous en parler si demain ça se passe bien pour elle.
Ouais. Moi, j'ai pas vu, mais c'est là où arrivent les co-coachs.
C'est là où arrivent les co-coachs. C'est là où on a invité Kenji, Amir, Slimane, ouais, Camille Lelouch et Maëlle qui sont venus. Et ensuite, on aura des grands shows en direct. Une demi-finale et une finale dans quelques semaines. Et là, ça va être l'apothéose jusqu'à ce qu'on couronne la voix de toutes les voix pour le plaisir. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de contrat de disque. Il n'y a pas de pression.
C'est
vraiment
vous.
La voix de toutes les voix pour le plaisir, pour célébrer The Voice.
Vous savez quand ou vous ne donnez pas la date pour pas que les chaînes en face connaissent la date?
Non, je sais à peu près quand même, parce que j'organise les choses, mais on reste toujours un petit peu mystérieux sur le nombre exact d'épisodes pour faire un peu durer le plaisir.
Dans 2 ou 3 ans.
Ouais, The Voice en chiffres, c'est quand même absolument dingue. 10 millions d'albums vendus, 18 Energy Music Awards, 3 victoires de la musique, 1 César. Et surtout, je ne savais pas ça, 2,7 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube, mais 2,3 milliards de vues sur cette même chaîne. Comment sont les audiences?
Les audiences,
ça déclinait, et alors, depuis 2 ans, vous avez remonté la pente.
Bon, ça reste, on va dire, l'émission de plateau la plus regardée en France. En particulier, la saison qui s'est écoulée, la saison qu'on a terminée avant l'été, était en très forte hausse. On était à peu près plus de 5 millions de moyenne.
Pardon de vous dire ça, toutes les chaînes, parce que c'était l'effet confinement.
Ouais, mais l'effet confinement, ça c'est le volume en millions,
bien
mais
sûr,
nous on regarde aussi les parts de marché. Non, l'émission se porte bien. On est heureux d'avoir plusieurs saisons par an. On va revenir l'année prochaine avec une édition normale. Et aussi The Voice Kids, les petits vont revenir. Voilà, mais en-delà des chiffres, ce qui nous fait vraiment plaisir à nous, c'est d'avoir permis de faire découvrir toutes ces voix, ceux qu'on voit tout le temps à la télé, ceux qu'on voit un peu moins et qu'on va peut-être revoir à partir de demain. Vous allez redécouvrir des gens que vous avez aimés, vous allez peut-être les rencontrer si vous ne les avez pas vus la première fois. Et The Voice, c'est ça, c'est une vitrine pour les artistes et on est très très heureux de leur avoir permis à chacun et à chacune de s'exprimer depuis toutes ces années.
J'ai lu en préparant cet entretien qu'il n'y avait pas moins de 125 adaptations de The Voice dans le monde entier. Vous regardez ce qui se fait, vous piquez les bonnes idées, ce qui vous pique
bien
les vôtres, comment ça se passe? Dans quelle mesure êtes-vous libre?
On est assez libre en fait. Et plus le temps passe, plus on l'est. Puis je crois qu'en France, on a fait un peu nos preuves. Et puis on est des Gaulois, on aime bien faire un peu à notre façon. Donc il y a une mécanique générale qui est commune à tous les pays, celle des fauteuils. Mais après, chacun fait les choses un peu à sa sauce. Et on peut innover, puisque voilà, The Voice All Star, eh ben, c'est français. Ça va se faire maintenant d'ailleurs en Thaïlande, en Finlande. Il y a d'autres pays qui sont dit, allez, les Frenchies ont une bonne petite idée. Voilà, 5 coachs, c'est une idée française. Et puis en France, on a quelque chose que personne d'autre n'a. Quelqu'un plutôt, c'est Nikos Aliagas. Et ça, c'est la classe.
Ah, ça, c'est sûr. Et ça rime, en plus.
Ils peuvent peut-être l'avoir en Grèce. c'est pas ce soir, c'est demain samedi. C'est également le jour choisi par France 2 et Nagui pour lancer une nouvelle émission très ambitieuse présentée par Nagui, Télécrochet en direct, qui se donne pour mission de révéler non pas des voix, c'est The Voice, mais des auteurs, compositeurs, interprètes. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il était l'invité, Nagui, de C'est à vous, mercredi. Il était un peu colère contre vous, je le cite. Il dit, nous ne faisons pas... Il n'est pas content que vous ayez choisi le même jour que de diffusion. Il dit, nous ne faisons pas une émission avec des perdants de The Voice, ce sont eux qui la font. On fait tellement peur que notre chaîne concurrente, donc TF1, envoie l'artillerie lourde face à nous. Que lui répondez-vous?
Alors, d'abord que ça fait 7 ans que The Voice Kids est programmé à cette période de l'année, toutes les rentrées sur TF1, donc c'est pas une nouveauté. Et cette année, c'est The Voice All Star exceptionnellement qui prend le relais. Et ça fait 10 ans que The Voice est le samedi soir. Donc voilà, après moi, je lui réponds avec beaucoup de bienveillance, parce que la bienveillance à The Voice est très important, y compris envers nos concurrents. Donc je lui dis simplement bonne chance pour demain soir. Et puis surtout merci, parce qu'il a passé plus de temps à parler de nous que de son émission dans sa promo. Donc merci pour la pub, Nagui, et à demain sur TF1. 21h.
Merci beaucoup Mathieu Grelier. Je rappelle The Voice All Star, la saison démarre demain 21h sur TF1. Anne Silla, merci. Vous êtes dans le programme, votre nouvel album. J'essaie de me dépêcher et je bafouille, il faut jamais faire ça. Règle de base qu'on apprend le premier jour. Ça sortira le 29 octobre. On peut vous voir en concert en ce moment ou pas encore?
Pas encore, mais ça ne saurait tarder et j'ai vraiment hâte.
Ce qui ne saura tarder, c'est la deuxième heure de Culture Média qui continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. Il y aura Bruno Donnet pour ses télescopages. Une chronique qui scrute les médias de très très près. Et là, il nous fait aussi une All-Star. On est le vendredi et il fait un mix-up, un mash-up de tout ce qui s'est passé cette semaine. Notre invité, c'est l'humoriste Bérangère Krief pour son spectacle Amour. Et dans Les Indispensables, un roman en lice pour le Goncourt. Et Charlotte Langrand, elle va nous parler d'amour et de cuisine. Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission, lui aussi, c'est une voix et même plusieurs. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.